Journal présenté par Claire Flochel.
Bonjour à toutes et à tous. La ville des Sables d'Olonne lance un appel aux dons pour venir en aide aux familles des trois sauveteurs morts en mer vendredi. Le calme est revenu après la tempête Miguel, mais le drame est loin d'être oublié. Certains voudraient interdire aux sauveteurs de sortir leur bateau quand les intempéries sont trop fortes. Un nouveau coup dur pour la droite après la déroute des européennes. Plusieurs dizaines de maires et d'élus locaux officialisent leur soutien à Emmanuel Macron dans une tribune. Et puis la mort d'une icône de la révolution syrienne tombée sous les bombes de Bachar al-Assad. Abdelbasset al-Sarrout, ancien footballeur devenu chanteur, a été tué dans le nord-ouest de la Syrie. La Légion d'honneur pour les trois sauveteurs morts vendredi au large des Sables d'Olonne en Vendée. Ils seront faits chevaliers de cet ordre national à titre posthume. Emmanuel Macron l'a promis hier. Ces trois secouristes ont péri en tentant de sauver un marin pêcheur porté disparu. Il n'a jamais été retrouvé. Leur vedette s'est retournée en pleine tempête Miguel. Un accident qui a provoqué de nombreuses réactions. Pour le maire des Sables d'Olonne, il faut changer les règles de sortie en mer en cas d'intempérie pour éviter de tels drames. Mais pour les spécialistes, Manon Derdevé, ce n'est pas réalisable.
Interdire aux sauveteurs de sortir leur bateau en pleine tempête quand les vagues font 6 ou 7 mètres, cela est impossible pour Christian Bûcher, directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris.
Tout dépend de la taille du bateau, tout dépend du nombre de personnes à bord du bateau, tout dépend de l'endroit précis. Ça supposerait une réglementation très draconienne, très technique, donc je crois qu'il ne faut pas raisonner comme ça. La réglementation, on en a, ce sont des gens qui connaissent les choses, mais il faut dire aussi que le risque zéro n'existe pas. Oui, il faut absolument, si ce n'est interdire, au moins être très vigilant quant aux sorties de mer, effectivement, lorsqu'on n'a pas affaire à des professionnels de la mer, lorsque les conditions sont dramatiques. Mais de toute manière, si tous les bateaux de partout devaient se trouver dans les ports en période de tempête, on n'aurait pas des ports assez grands.
Les membres de la Société nationale de sauvetage en mer sont tous des spécialistes et travaillent bénévolement. Mais selon Christian Bûcher, leurs bateaux ne sont pas toujours flambant neufs. Alors le meilleur moyen d'éviter ces drames, c'est de soutenir ces sauveteurs.
Ce qu'il faut, c'est renforcer encore les moyens, car en dépit de l'appellation Société Nationale, il faut savoir c'est une association privée qui à 80% fonctionne à partir de donations. Ce sont des pêcheurs, ce sont des marins, ce sont des hommes de mer qui en plus ont été formés à ces techniques. On sait que la mer est très dangereuse et c'est pas une raison pour ne pas intervenir. Les gens de mer qui sont des gens de solidarité ne peuvent pas baisser les bras.
Et selon le chercheur, un marin a 16 fois plus de risques de se blesser dans l'exercice de son métier qu'un pompier.
Manon Derdevé, une marche silencieuse est organisée demain au Sable d'Olonne, devant le lieu du naufrage, là où ont péri les trois sauveteurs vendredi. Une vingtaine de personnes interpellées après des heurts hier à Montpellier, heurts en marge d'une manifestation de gilets jaunes. Une dizaine de personnes ont été blessées dans les rangs des manifestants et des forces de l'ordre. Environ 10 300 gilets jaunes ont défilé dans toute la France hier, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Mobilisation a classé parmi les plus faibles depuis le début du mouvement. Une première marche des fiertés en banlieue cet après-midi à Saint-Denis, près de Paris. Hier, une autre marche des fiertés s'est tenue à Rennes. 25e édition de cette manifestation pour les droits des lesbiennes, gays, bi, transsexuels et intersexes. Emmanuel Macron élargit le cercle de ses soutiens. 72 maires et élus de droite et du centre se rangent officiellement derrière le président dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche. Des élus issus de 34 départements et 12 régions. Voilà qui n'arrange pas les affaires de la droite deux semaines après la déroute des Républicains aux élections européennes et une semaine après la démission de Laurent Wauquiez. Simon Le Baron.
C'est un ancien de LR qui est à l'initiative, le maire d'Angers, Christophe Béchu. Il emmène avec lui d'autres élus qui ont aussi claqué la porte des Républicains, comme le maire de Vannes, David Robot, ou l'ancien ministre de Jacques Chirac, François Goulard. On trouve également parmi les signataires des élus toujours encartés chez LR, mais qui ont pris leur distance, comme la maire du 9e arrondissement de Paris, Delphine Burkly, des UDI, la maire d'Amiens, Brigitte Fourré, ou des radicaux, le maire de Nancy, Laurent Hénard. Nous sommes de ceux qui souhaitent la réussite impérative de la France, écrivent ces élus, que l'on savait Macron compatibles, mais qui disent vouloir dépasser les étiquettes. C'est pourquoi, poursuivent-ils, nous voulons la réussite du président de la République et du gouvernement. Rendez-vous est pris, à moins d'un an des municipales. Ils savent que La République En Marche manque encore cruellement d'ancrage local. et aura bien besoin de candidats expérimentés.
Simon Le Baron, une figure de la France insoumise, quitte le mouvement. Charlotte Girard, qui avait co-rédigé le programme originel de la formation, dans une publication Facebook, l'ancienne porte-parole de la France insoumise pendant la présidentielle de 2017, dénonce sa ligne brouillée et sa stratégie électoraliste dangereuse. Auparavant, cet intellectuel s'était déjà inquiété du manque de démocratie dans le mouvement. En Allemagne, les Verts n'ont jamais été aussi populaires, avec un score de 20,5% aux européennes à la fin du mois dernier. Il a pris la deuxième place devant le parti social-démocrate en pleine déshérence. Et depuis, les sondages sont au beau fixe. Pour la deuxième semaine d'affilée, le parti écologiste est placé en tête de tous les partis dans un sondage sur les intentions de vote des Allemands. L'idée d'un chancelier écologiste après Angela Merkel se profile donc. David Philippot.
C'est un duo qui dirige le parti vert avec une répartition des rôles bien établie. Une femme, Annalena Baerbock, 38 ans, cette mère de deux enfants, réussit le tour de force de canaliser les courants souvent forts d'un mouvement historiquement divisé. L'homme, c'est Robert Habeck. Il incarne la figure de proue, barbe de trois jours et volontiers charmeur. L'écrivain philosophe fait la tournée des médias. Il dispute à Angela Merkel la première place de personnalité politique préférée des Allemands. L'un des deux se présentera un jour à la succession de la chancelière. Pour l'instant, ce duo complémentaire veut encore renforcer la crédibilité d'un parti solide sur ses positions, en phase avec l'air du temps, avec l'inquiétude climatique des Allemands, un parti ancré au centre du jeu politique, capable, il l'a prouvé au niveau régional, de gouverner avec la droite et la gauche. Il dirige le Bade-Württemberg avec les conservateurs. Et cette semaine, ils ont annoncé vouloir former un gouvernement à Brême avec les sociaux-démocrates et l'extrême gauche. Les Verts ne profitent pas seulement de la crise des deux partis, la CDU et le SPD. Ils offrent aussi un profil moins idéologisé, moins à gauche, moins moraliste que par le passé, moins d'aspérité, ce qui leur permet de drainer plus large, en particulier chez les jeunes, chez les moins de 30 ans. Ils sont 1 sur 3 à avoir voté pour les Verts aux européennes.
David Philippot, correspondant de France Culture en Allemagne. Après Donald Trump, c'est au tour du président mexicain de se féliciter de l'accord passé entre son pays et les États-Unis, accord sur l'immigration clandestine. Demain, il n'y aura pas de crise économique ou financière au Mexique, a indiqué cette nuit Andrés Manuel López Obrador. Washington brandissait la menace de droits de douane sur les produits mexicains en cas d'échec des négociations. Un scrutin à la fois sans et avec Nazarbayev au Kazakhstan. Près de 10 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui. La première élection présidentielle sans Nazarbayev qui a démissionné en mars. Mais l'ancien président conserve malgré tout un rôle clé dans le système politique. Il soutient le président par intérim Tokayev qui est quasi sûr de l'emporter. En Syrie, les bombardements du régime se poursuivent pour déloger les derniers bastions rebelles. La guerre continue tous les jours, en ce moment au nord-ouest du pays, dans la région d'Idlib. Et c'est là qu'une icône de la révolution vient de tomber à l'âge de 27 ans. Abdelbaset Al-Sarout, ancienne star de football, était devenu chanteur, l'interprète le plus populaire des chansons de la contestation. Nicolas Feldman.
Abdelbaset Al-Sarout, c'était d'abord une voix. Âgé de 19 ans, au début de la guerre, il est ensuite devenu l'un des visages du soulèvement syrien. L'ex-gardien de but de foot a été immortalisé par la caméra du réalisateur Talal Derki. Le documentaire Homs, chronique d'une révolution sortie en 2013, retrace les deux premières années du conflit. À l'écran, ce pacifiste de la première heure, charismatique, harangue les foules avec ses chants révolutionnaires. Mais au fil des bombardements du régime, écrasé par la machine répressive syrienne, le jeune homme bascule dans la lutte armée. Abdelbaset Al-Sarout quittera définitivement sa ville de Homs en 2014 après 2 ans de siège. Il menait depuis la lutte contre le régime dans le nord-ouest syrien. C'est là, dans le village de Tal Malek, qu'il a été blessé avant de s'éteindre à l'âge de 27 ans. Il est mort en martyr, en combattant au nom de Dieu, annonçait hier le responsable de sa faction rebelle. Le message s'accompagnait d'une vidéo, cheveux au vent sur une route de campagne. Abdelbaset Al-Sarout y chante les territoires rebelles repris par le régime, dont sa ville de Homs, et affirme « Nous reviendrons ».
Reportage signé Nicolas Feldman pour France Culture. Et puis un appel à la désobéissance civile au Soudan. Les meneurs de la contestation restent mobilisés contre le conseil militaire de transition qui est réprimé dans le sang à Sitin il y a 5 jours. Ils réclament un gouvernement déplacements civils et évoquent une centaine de morts dans leurs rangs. Le temps de ce dimanche, assez instable avec encore des éclaircies mais plus de nuages qu'hier, des averses orageuses du matin au soir sur les Alpes et jusqu'aux Bouches du Rhône. La foudre pourrait aussi tomber sur la pointe bretonne en début d'après-midi. Les températures seront un peu justes pour la saison, une moyenne de 20 degrés au nord, 24 au sud.